Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture.
Dans ce pays, l'impossible est possible et le possible impossible.
La citation est du poète L'Hérisson. Et vous l'aurez compris, le Dahu vous emmène en voyage dans une île lointaine. Cette île, c'est Haïti.
C'est une histoire méconnue. Je pense que la première chose que les gens devraient se dire, c'est que Haïti a quand même fait l'une des trois révolutions de l'État moderne, après la révolution américaine, la révolution française.
Elle a amené plus loin l'idée d'égalité. Mais en même temps, elle a ses failles à elle.
De même que la révolution française avait ses failles, dans la mesure où même ceux qui avaient fait la révolution étaient restés des esclavagistes, la révolution haïtienne n'a pas su créer justement après des citoyens.
À partir de cet événement, je pense qu'il y a eu beaucoup de clichés construits sur Haïti à dessein pour qu'Haïti soit le mauvais exemple
à ne pas suivre, parce qu'il ne fallait pas que les autres colonies se soulèvent à l'époque. Donc, tous ces clichés sont restés collés à Haïti. La révolution haïtienne aussi a fait que le peuple haïtien a inventé quelque chose durant tout le 19e siècle qui est une culture dont l'enfermement, c'est ce qui lui donne sa cohérence, et en même temps d'un rejet de ce qu'on appelle le modèle de la plantation qu'on va avoir dans les colonies ni dans la Caraïbe et l'Amérique latine. C'est pour ça qu'Haïti est très atypique. C'est un peu ça que je veux montrer aussi.
Comme le rappelle Yannick Lahens, Haïti est le premier lieu de révolution réussie d'esclaves dans le monde moderne. En 1789, la population d'Haïti était composée de 4 fois plus de noirs esclaves que de blancs. En 1791, la population noire d'Haïti se révolte. S'ensuit une guerre civile opposant la population esclave menée par des chefs comme Toussaint Louverture aux armées espagnoles, britanniques et françaises. L'indépendance est proclamée en 1804. Et Haïti devient la première république noire libre du monde. Le Dahu vous propose de découvrir un pan de l'histoire et de la culture d'Haïti par l'œuvre de 3 auteurs haïtiens des 20e et 21e siècles. Magali Renouf vous présente Jacques Stephen Alexis, Guillaume Singal vous présente Franck Etienne et Yannick Lahens par elle-même. Dans la deuxième partie de cette émission, toujours avec nos précieux invités, nous nous pencherons sur les points communs de ces 3 écritures pour voir ce qu'elles nous disent d'Haïti et de la littérature aujourd'hui. Bon voyage! Magali Renouf, Jacques Stephen Alexis.
Il est né en 1922. Il était détesté par le gouvernement haïtien. Il a adhéré au parti communiste qui s'est opposé à la dictature de Lescaut.
Élie Lescaut, président d'Haïti de 1941 à 1946. Il favorisa le maintien d'une élite à la peau claire, notamment parmi les officiers de la garde militaire, au détriment de la population noire majoritaire. Il tenta de mater les opposants et la presse avec la garde militaire et une police rurale, les chefs de section. Il ne put éteindre la colère populaire en 1946. La garde militaire, essentiellement noire, refusant l'ordre de marcher sur les manifestants. Il fut contraint à l'exil. Étienne Dumaret fut élu à sa suite le premier président noir élu au cours de l'occupation américaine.
Du coup, ils ont tout fait pour l'éloigner de Haïti et qu'il arrête de les embêter. Ce qui ne l'a pas empêché de continuer, bien sûr. Son œuvre est extrêmement influencée, notamment par tout ce qui est littérature lusophone. Il a beaucoup voyagé à Cuba, par exemple. Un jour, il a décidé de retourner en Haïti. Seulement, il a été dénoncé et donc il a été arrêté et très certainement exterminé. Sachant qu'en fait, on n'a aucune preuve puisque le gouvernement n'a jamais voulu reconnaître que c'est lui qui l'a assassiné. Le roman Zéro aux étoiles est sa dernière œuvre. C'est un recueil de récits. Ce sont des récits qui racontent la culture haïtienne traditionnelle et aussi une version un peu plus moderne. 2 narrateurs, 2 conteurs. Le vieux vent caraïbe qui représente, comme on s'en doute, la tradition ancestrale. Et son neveu qui va lui raconter des textes plus modernes ou des versions un peu modernisées de textes traditionnels. Et donc c'est une sorte d'affrontement entre ces 2 conteurs. Une forte présence de ce qu'on appelle le réalisme merveilleux. Il s'agit de mettre du merveilleux dans la réalité, mais de sorte que ce merveilleux ne soit jamais perçu comme extraordinaire. J'ai choisi un extrait justement qui, je crois, montre ce merveilleux réaliste. C'est une nouvelle qui s'appelle « Le roi des songes ». Je m'étais engagée à fond dans la prairie. Je vis un oiseau noir qui marchait parmi les fleurs. Il ne s'inquiéta pas de moi et continua à faire des courbettes sur la tapisserie végétale. Toute une série de mines, de rondes jambes, un two-step mondain du plus pur style. Le cou et le bec avaient des grâces étranges. C'était certainement quelque artiste de la jante emplumée qui répétait avant la grande première. Je ne le dérangeais pas. Je me dirigeais droit vers un rideau d'arbres. De l'autre côté, il y avait une route. Une chaussée en métal blanc, bordé d'arbres en tôle ondulée. Je m'engageais sur cette voie dont les arbres avaient un bouquet terminal en laque japonaise, branches, feuilles et fleurs. Le ciel tout entier était d'une couleur jaune citrine, presque verte, qui me ravissait. Les nuages devaient être tissés de laine mérinose d'un noir profond. Les oiseaux chantaient, mais je ne les vis pas, clavecin à musique concrète, bruitant mélodieusement à des hauteurs différentes. Une immense voiture en cuivre rouge à forme de fusée apparut. Elle se ruait sur moi, je me garai. La voiture s'arrêta net, sans bruit. Les portes s'escamotèrent. On descendit une autruche, à casquette galonnée, uniforme rouge à boutons d'or, pantalon collant couleur émeraude, guêtres noires et souliers de daim blond. « Au palais ? » interrogea-t-elle. « Au palais ? » répondis-je sans hésitation. Elle m'ouvrit la porte et je m'assis sur la banquette transparente, mousse de verre. « La saison est belle ? » demandai-je à mon chauffeur. « On ne peut pas se plaindre ?» me répondit-il. « Hier, nous avons eu une averse de papillons noirs du plus bel effet. Nous nous sommes tous baignés dans la pluie. Le soir, le spleen du coucher des comètes avait des cendres que nous n'avions jamais encore vues. Ce matin, vous voyez, notre ciel est au beau soufre-fixe. Mais la météo annonce une tempête de cauchemar. Vous voulez voir la télévision des volcans ? Le programme n'est pas trop mauvais. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton indigo qui est à votre droite. » J'appuyai sur le bouton et sans écran, je vis la danse des laves, les jets d'eau du feu et les trompettes de jazz des cratères. Mais 6 motocyclistes avaient entouré notre voiture. 6 crocodiles casqués et bottés. Ils utilisèrent leurs sifflets qui déchirèrent l'air en lanières, puis se turent. Le chauffeur ralentit. Nous étions devant les grilles du palais royal. Des sirènes retentirent. En effet, dans les grandes vasques orangées, dont les paupières aux beaux cils recourbés battaient doucement, se baignaient les sirènes. C'étaient de vraies sirènes aux belles écailles d'argent. La voiture s'arrêta. Je descendis et le grand chambellan apparut. C'était un jeune tigre aux magnifiques dents claires. Ce devait être le chambellan puisqu'il avait sous la poitrine une panoplie de médailles. Comme je le félicitais de sa belle tenue, il me répondit. J'étais au cirque Barnum. J'étais bien dressé. Quel homme pourrait mieux que moi être le grand chambellan du roi des songes ? Qui pourrait ronronner mieux que moi ? Le roi des songes, comme les autres rois, adore entendre ronronner ses officiers. C'est son faible. Malgré tout, je préfère être le grand chambellan du roi des songes que celui du roi du pétrole ou de la saucisse. Notre roi a plus de fantaisie. Il faut être bien dressé pour servir dans les grandes maisons. Chez vous, les grands hommes se plaignent de leur larbin, mais ils oublient qu'on ne peut arriver à bien dresser les hommes. Pourquoi ne se font-ils pas servir par des tigres ? Notre souverain est un sage. Tous ceux qui desservent le palais sortent des plus grands cirques de la terre. Et c'est justice, mais je vous confie au maître de cérémonie. Il saura mieux que moi vous renseigner sur les usages de notre beau royaume des songes. Le maître de cérémonie apparut. C'était un joli petit chien, aux longues et soyeuses oreilles. Il jappa joyeusement en me voyant, et tout en me conduisant, il me parla. « Voyez-vous, honorable visiteur, me disait-il, le royaume des songes est le plus vieil état du monde, et ce sera bientôt la dernière de toutes les monarchies, qu'elles soient de droit divin ou constitutionnel, à persister. Heureusement qu'existe encore le royaume des songes. » Il a son utilité, croyez-moi. Vos rues, vos villes, vos villages et même vos contrées dites sauvages se dépeuplent de plus en plus de songes. Dès que le soir arrive, nous avons plus de 2 milliards de touristes qui accourent. Chacun a son coin d'élection dans notre royaume et ne s'inquiète pas du reste. Le lendemain, nos visiteurs s'en vont. Ils redeviennent comme vos compagnons d'avion. Ils vont à leur bureau, à leur cabinet, à leur chantier, à leurs usines ou à leurs champs. Et fini les songes dans la vie quotidienne. Voyez-vous, ce n'est pas que vous ne rêviez point aux États-Unis, en Haïti, en Allemagne, en France ou en Afrique. Vous rêvez partout et à toute heure, bien sûr. Cependant, vous n'avez pas encore perdu la fâcheuse habitude de vous réfugier au royaume des songes quand vous avez envie de rêver. Aussi, notre royaume est encombré de tous les songes que caressent les humains depuis l'apparition de votre espèce sur la planète. Mais Sa Majesté vous attend et saura mieux que moi vous dire le reste. J'étais abasourdi par tout ce que j'avais vu et entendu. Nous avions rencontré toutes sortes d'animaux affairés, des fonctionnaires du palais sans aucun doute. Que signifiait tout cela ? J'étais en pleine fantasmagorie et homme positif tel que je suis, ce n'était pas fait pour me tranquilliser. Comme tout le monde, j'ai mes heures de rêve. Mais il ne faut pas abuser. J'entrais chez le roi des songes. Surprise nouvelle. Le roi des songes n'était pas langoureusement vautré sur un sofa de plumes, buvant des boissons capiteuses et fumant des cigarettes de nirvana. Non. Le roi des songes ne pêchait pas les oiseaux de sa volière, avec des lignes en fil d'araignée et des appâts de mie de pain. poussant de petits cris ravis. Le roi des songes n'était pas un Bouddha à six bras, accroupi dans l'extase. Le roi des songes n'était pas un poète futuriste en crise de paranoïa créatrice. Non, non, non. Le roi des songes n'était ni peintre constructiviste, ni sculpteur de masse et de volume parfait. Il n'était pas entouré de couleurs bien mariées ou d'oiseaux de plumes de glace. J'étais surpris. Le roi des songes me reçut dans son immense bibliothèque aux livres bien rangés. D'immenses graphiques se détachaient sur les murs, toutes les couleurs étaient ternes. Devant le bureau de travail, il y avait une petite table basse et trois fauteuils à peine confortables. Le roi des songes était un homme grisonnant, peut-être 60 ans, visage affable, calme, réfléchi. Nulle exaltation, nul endormissement dans le regard. Vêtu d'un simple complet beige, il allait et venait dans les rayons, les fouillant, tirant sans arrêt sur sa pipe. Ce qui est intéressant aussi, c'est un texte qui s'appelle « Les chroniques d'un faux amour » qui parle d'un zombie, enfin d'une femme zombie. Que les gens partent tout de suite sur l'a priori du zombie Hollywood, etc. Comme les Américains nous les ont fait, bien dégoûtant. Et là, en fait, Jacques-Stéphane Alexis réexploite vraiment le zombie à l'état d'origine, donc sachant que le zombie vient de Haïti. Au départ, de la culture vaudou. Au départ, le zombie n'est pas un être agressif qui va manger tous les hommes, puisqu'il est plutôt victime d'un sorcier vaudou qui va lui faire manger quelque chose, une poudre, qui va d'abord le mettre dans un état de fausse mort. On va l'enterrer comme s'il était mort, et on va faire tout un tas de rituels pour le déterrer, et ensuite s'en servir comme esclave, à l'aide de drogues qu'on lui injecte pour qu'il soit apte à faire quelques tâches de bas niveau, mais pas suffisamment apte à réfléchir sur ce qu'il fait, etc., pour qu'il ne se révolte pas, bien sûr. Dans la bière ouverte, j'entends sangloter la famille et les amis rassemblés. Les cierges pleurent à chaudes larmes sur mon visage et sur ma robe de gros grains blonds. Je suis une statue de froid. Ma gorge est cerclée d'une petite bague et ma bouche est de soufre et d'albumine. On a recouvert mon corps d'une pluie de petites fleurs frisotées, précieuses, lactescentes, qui m'irradient. On va et on vient autour de moi. Voici la bouche de mon père qui se pose sur ma main et son sanglot fait tressauter le cercueil. Voici ma nourrice, Mouka, qui pépille et qui tremble. Je sais que le visage de mon fiancé s'approche, je le devine. Qu'il s'approche, qu'il me baise à pleine bouche et je suis sûre d'être ressuscitée. Ses lèvres épousent les miennes. Sa langue s'insinue à travers mes dents. Mais ma langue est un mollusque sans vie. Ma langue est une albumine. Il m'embrasse à pleine bouche et je ne suis pas ressuscitée. Le concert des sanglots s'accélère, s'exalte et devient un tocsin d'épouvante. On ferme la bière au-dessus de moi, les vis grincent et hurlent. Les chaos s'arrêtent avec le pas des chevaux. Doucement, on m'emporte. À bout de bras, on me pose et l'encens s'insinue à travers l'acajou. L'harmonium miaule, chat énervé qui s'étire. Jour de colère que ce jour-là. Les harmonies montent et les voix s'époumonnent, s'enroulent et se déroulent, amères et prophétiques. L'officiant dialogue nasillardement avec le chantre et la messe de Requiem tombe sur moi, toute vive, toute crue, glacée, rigide, vivante dans ma bière de morte. Je suis traversée de bouffées de cris impuissants, de gestes pensés que je ne puis ébaucher. Des gouttes d'eau résonnent cruellement sur la bière. Ma bouche est un brasier de soufre et d'albumine. On m'emporte. Tout est noir, tout est nuit, tout est adieu. On maçonne le caveau. Me voilà dans le bleu avec le vrombissement de cette mouche emprisonnée avec moi dans la caisse d'acajou. Elle se débat pendant des heures sur ma tête, se promène sur mes lèvres, dans mes yeux, dans mon cou. Un petit bruit brillant. Est-ce un ver qui travaille? Est-ce la pourriture qui commence? Suis-je verte comme une moisissure? Le bois grince dans la chaleur. J'entends d'autres vers qui percent leurs trous pour arriver jusqu'à moi. Suis-je déjà gaz, miasse, vers qui grouille, fourmis, taupes et microbes? Suis-je marbre inattaquable? Un cisaillement crève les heures. On me tire, on m'attire. Un tambour hoquette de peur. Les vis grincent et hurlent. La bière est ouverte. On me glisse une cuillère entre les dents. La vie coule. Elle pénètre mon gosier qui s'entrouvre. Elle fuse dans mes bras, elle me parcourt le ventre. Mon sexe se revit et se remet à palpiter. Mes jambes, voilà mon cœur qui repart, forcené, délirant. On m'arrache. Le tambour fait rafale, cloche et cymbale à mes oreilles. Je suis debout, je crie. Ils me frappent, ils me fouettent, ils me battent, ils me poussent. Je marche, Je marche à travers le cimetière, ville lilliputienne qui s'éloigne. Voici les lueurs de Port-au-Prince, épanouies comme une fleur de rêve. Je hurle, ils me fouettent. Je me débats, je me bats, je mords, je griffe, mais ne peux m'échapper. Ils m'attachent, le tambour ronfle parmi les cris de mes geôliers et les sifflets des cravaches. Me voici dans la chambre tentée de noir. Me voici en tête à tête avec un affreux bouc à jaquette rouge. Un baka. C'est un baka, animal humain, bête, enchanté. Me voici dans ma robe de gros grains blancs brodés d'argent, mon voile de mariée sur la tête. Parfois le vieux Silène Gras entre dans la chambre et me donne à manger. Les mets n'ont jamais de sel et le bouc sans arrêt fait des cabrioles autour de moi, me regardant avec son œil humain. Il y a aussi un serpent qui rampe sur le plancher. L'hominien velu et roux, parfois s'agenouille devant moi comme devant une madone et éructe des prières dans un langage aux sonorités d'épouvante. Je suis consacrée à quelques dieux de mort, à quelques belles ébutes sadiques. Je suis vive et morte, entre la chaise, la table, le lit, le bouc à jaquette rouge qui bêle pendant des heures, le serpent qui s'enroule et se déroule. Les mets n'ont jamais de sel. Ma robe de mariée sera neuve au long de la durée. Je suis vive et morte, sans force, sans voix, sans volonté. Voilà des années que le gorille aux poils rouges qui blanchissent tourne autour de moi, me révérant comme une statue. Mon œil est morne et indifférent. Les mets n'ont jamais de sel. Je suis une zombie.
Guillaume Singal, Franck Étienne.
Franck Étienne est un écrivain qui est considéré actuellement comme le père ou le grand-père des lettres haïtiennes. Des écrivains plus médiatisés comme Dany Laferrière ou récemment Yannick Lahens citent souvent son nom, qui est un écrivain dont l'œuvre n'est pas très facile d'abord. Franck Étienne, il a marqué la littérature haïtienne pour plusieurs raisons. Déjà, il est né dans les années 30, donc c'est vrai qu'il est d'une génération qui est la génération, on va dire, au-dessus de Laferrière, par exemple. Lors de la mise en place de la dictature de Papadoc, de François Duvalier.
Homme politique haïtien, 1909-1971. Médecin formé pendant l'occupation nord-américaine de son pays, d'où son surnom ultérieur de Papadoc. Ministre de la Santé de 1946 à 1950. Il fut élu à la présidence de la République en 1957, lors d'élections considérées comme douteuses. Il créa une milice, les volontaires de la sécurité nationale, appelés les Tontons Macoutes. Il se fit proclamer président à vie en 1964 et régna en dictateur et par la terreur jusqu'à sa mort en 1971.
Il choisit de ne pas s'exiler, contrairement à la plupart des autres artistes, de rester sur place, de lutter sur place, et de continuer à écrire, à créer sur place. Comme beaucoup d'écrivains ou de praticiens qui se trouvent dans une situation de lutte esthétique et politique, il finit par choisir aussi le médium du théâtre, hein, ce qui est un choix qui a souvent été fait, notamment dans le tiers-monde, avec l'idée que le théâtre avait beaucoup plus d'efficacité, notamment vis-à-vis évidemment de populations pas forcément alphabétisées, à coup sûr, qui ne lisaient pas de la poésie ou des romans tous les jours. Donc c'est vrai que le théâtre avait ce côté efficace. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est ce côté « je reste à Haïti ». Je reste à Haïti, je ne quitte pas Haïti, je continue à créer, à produire à Haïti. C'est un des rares, en fait, à être également peintre. Donc il a une approche qui est une approche, en fait, multiple aussi de l'art. Il crée souvent des œuvres qui sont à la fois de l'ordre de l'écrit, du visuel, qu'il a écrit à la fois en créole et en français, donc en créole haïtien. Et un de ses plus grands textes, un de ses textes les plus célèbres, Desafi, est un roman en haïtien qui date du début des années 70. La suite d'une création d'un mouvement littéraire, La Spirale, qu'il a créé à la fin des années 60 avec notamment René Philoctète, qui est un autre poète haïtien. Donc La Spirale, qui est un mouvement un petit peu d'inspiration surréaliste au départ. Et à ce moment-là, Franck Étienne se met à écrire des textes qui sont plutôt qui font penser par certains côtés à une réécriture des chants de Maldoror, donc avec une sorte de volonté de faire exploser le langage, de faire exploser la signification, de faire exploser la représentation même par le langage. Il s'agit d'un créateur très très particulier, très étrange. Donc je vais peut-être lire quelques extraits. Alors peut-être, j'avais amené un extrait de son premier texte spiralaire, me semble-t-il, ou un des premiers, qui date de 1968, et cet extrait de Mur à crever, qui est d'ailleurs un des seuls textes qui a été traduit en anglais, parce que les Américains ont fini par s'apercevoir de l'existence de Franck Étienne quand son nom a couru pour le prix Nobel il y a 4 ou 5 ans. Et là, il suffit évidemment qu'il y ait une rumeur sur le prix Nobel pour qu'aussitôt les éditeurs, notamment de langue anglaise, se disent « Ah tiens, que se passe-t-il » Donc, Mur à crever a été traduit et sorti en 2014 en anglais, sous le titre « Ready to Burst », je crois. À force de vouloir dire « Je ne suis devenu qu'une bouche hurlante », Je ne m'inquiète point de savoir ce que j'écris. Tout simplement j'écris, parce qu'il le faut, parce que j'étouffe. J'écris n'importe quoi, n'importe comment. On l'appellera comme on voudra. Roman, essai, poème, autobiographie, témoignage, récit, exercice de mémoire, ou rien du tout. Moi, je ne sais même pas. Pourtant, ce que j'écris ne m'est pas étranger. Personne ne parviendra à dire beaucoup plus qu'il n'aura vécu. J'étouffe. J'écris tout ce qui me passe par la tête. L'important pour moi, c'est l'exorcisme. La libération de quelque chose, de quelqu'un, peut-être de moi-même. La délivrance, la catharsis. J'étouffe. Je ne vois pas de soupirail. Et je force sur les parois de mon asphyxie avec le bélier des mots. Si malgré tout, elle ne s'ouvre pas, un passant entendra la ruée anarchique de mon langage ou le SOS barbare de mon agonie. J'ai assez réfléchi. On réfléchit trop dans mon entourage. Donc ça, c'est le premier moment déterminant dans son œuvre. C'est quand à la fin des années 60, avec ce mouvement de la spirale, il écrit ses premiers textes spiraliques, hein, ou spiralaires. Il emploie les deux. Et donc, il va s'en suivre une œuvre assez monumentale, avec notamment un livre qui s'appelle « L'oiseau schizophone », qui a donné lieu, donc, qui est un texte des années 70, qui a donné lieu dans les années 90 à une suite de 8 livres, qui pour moi sont le sommet vraiment de son œuvre, qui s'appelle « Les métamorphoses de l'oiseau schizophone ». Ces métamorphoses de l'oiseau schizophone, c'est un petit peu en quelque sorte l'aboutissement de tout ce procédé d'écriture. D'ailleurs, à cette occasion-là, il invente le concept d'écriture quantique. Il écrit de manière quantique. Alors, les mots sont traités à l'intérieur du texte comme des particules d'énergie sensuelle. Cela dit, quand on le lit, on se rend très vite compte qu'on ne peut pas rester totalement cérébral. On est obligé de passer par l'oralisation. C'est vrai que ce sont des textes qui se lisent assez difficilement dans le métro ou en public parce qu'on a très très vite envie de les beugler un peu, de les crier, de les chanter, de s'arrêter, de revenir en arrière, tout ça. Donc c'est des textes qui sont très très jouissifs de ce point de vue-là. Donc si c'est cela qu'il veut dire, et j'en suis pas tout à fait sûr, je vois ce qu'il entend par le côté les blocs, l'explosion par des blocs de sensualité. Peut-être un extrait, parce que j'ai parlé du spiralisme et de l'écriture quantique. Alors peut-être que le meilleur moyen d'en parler, c'est de donner la parole à Franck Étienne lui-même. Dans le dernier tome des métamorphoses de l'oiseau schizophone, dans le dernier tome qui s'intitule « Et la voyance explose », il y a un paragraphe dans lequel il parle justement de cette écriture. « L'esthétique spiraliste m'a conduit progressivement à l'élaboration de l'écriture quantique. Que de mondes avortés pour un seul grain de vie, aux turbulences des nœuds de l'île raturée de violence, au sida de la langue saturée amèrement de ne pouvoir se taire. Au vertige de ma terre, saoulée de catastrophes, au naufrage de mon île suspendue sans réchappe au balancier de la mort, je chevauche ma chute, mes abîmes insondables. Inachevablement, j'allume des paradoxes aux brûlures de mes mots, propulsant tous mes rêves aux nageoires de ma voix. » C'est une définition de l'écriture quantique, hein, faut se débrouiller avec. Hein. Les métamorphoses de l'oiseau schizophone, qui sont donc publiées en 8 volumes, ont été publiées tout d'abord au milieu des années 90. Il les a écrits, soi-disant, en 2 ans, et ça a été publié immédiatement, hein, au fur et à mesure. Ça a été donc republié par Vandailleur il y a quelques années, donc là, en respectant cette structure en 8 volumes. Alors, je sais pas comment ça a été écrit. Lui, de toute évidence, il l'a écrit un peu comme ça, presque d'un souffle, comme on écrit. Alors ensuite, c'est peut-être comme des parties d'un roman, les parties d'un livre, plus les chants d'un poème épique, hein, je ne sais pas quelle est exactement la meilleure analogie. Quand on le lit, il y a quand même des différences thématiques, notamment. Il y a un des volumes, le deuxième, c'est le cas aussi d'ailleurs du cinquième, si je ne m'abuse, ouais, d'une bouche ovale et une étrange cathédrale, qui sont plus politiques, qui décrivent aussi des massacres, qui parlent beaucoup de l'expérience de la dictature, des combats, des massacres, donc bon. Évidemment, pas quelque chose de très gai. Donc il y a aussi certains des volumes ont une unité thématique plus importante. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'unité formelle, c'est l'unité de l'ensemble des 8 volumes. En tout cas, moi, je n'ai pas remarqué une différence fondamentale entre, je sais pas moi, le premier et le dernier volume dans l'écriture. Peut-être aussi parce que ça a été écrit d'un bloc. Pour ce qui est de la série de 8 livres dont je parlais, Les métamorphoses de l'oiseau schizophone, il faut essayer de le lire, il ne faut pas s'arrêter. Alors il y a beaucoup de néologismes, il y a énormément de créations, il y a même des pages qui sont entièrement écrites en néologisme, puis il faut trouver son propre mode de lecture. À l'intérieur en fait, du projet de la spirale, il a évolué plutôt vers quelque chose de moins en moins lisible, hein, si on le suit comme ça, mais il a continué en parallèle à écrire des œuvres qui étaient des œuvres assez politique d'ailleurs. Hein. Il a écrit des pièces de théâtre qui étaient très clairement contre Baby Doc, hein, contre Jean-Claude Duvalier.
Jean-Claude Duvalier, fils de François Duvalier. Il lui succéda à la présidence à vie. Son régime se caractérisa par une certaine ouverture économique, mais les libertés essentielles ne furent pas rétablies. Il fut contraint d'abandonner le pouvoir sous la pression des États-Unis et partit en exil en France en 1986.
Non, je pense qu'il maintient un très grand nombre d'expressions simultanées. Ça sera, enfin, il est multiple depuis le début.
Yannick Lahens, à l'occasion de sa venue à Tours pour présenter son dernier roman, Bain de Lune.
Bonjour.
Vous avez eu donc le prix Femina, vous êtes aussi auteur d'essais, de récits et de nouvelles. Comment naît chez vous un projet d'écriture ?
Il faut dire que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de nouvelles. J'ai commencé par écrire des nouvelles et depuis 2008, je n'écris que des romans. Mais les nouvelles, c'est toujours une impression qu'on a et une sorte d'instant qu'on veut capter, alors que dans le roman demande quand même un déploiement dans le temps. Et donc, c'est deux approches complètement différentes. Mais je dois vous dire que Bain de Lune a d'abord été une nouvelle. J'ai mis 15 ans à en faire un roman.
Dans ce projet d'écriture, comment est-ce que vous êtes abouti à ce roman, en fait ? Comment vous l'avez construit ?
Oui, parce que c'est un roman du monde paysan, et moi, je suis une citadine, je n'ai pas été élevée dans le monde paysan. Et je voulais faire ce voyage à l'intérieur des terres haïtiennes, qui a été un voyage à l'intérieur de moi-même aussi. Donc c'est une quête à la fois géographique et puis intime, et qui a abouti à ce roman.
Alors je suppose que vous avez fait des enquêtes de terrain ?
Absolument, enquêtes de terrain. Je suis restée sur place, pas longtemps, mais assez pour des petits séjours courts, pour comprendre. J'ai écouté parler des gens, j'ai interrogé, j'ai lu aussi énormément, jusqu'à arriver à faire ce texte que j'ai mis du temps à faire. Et puis je ne regrette pas, voilà. Voilà, oui. Ça a été comme une aventure avec des dangers à contourner ainsi que des escales lumineuses. En fait, c'est le monde paysan avec ses croyances, et un monde que nous avons oublié. Qu'il y a quelque chose d'universel qui nous rassemble. Là, ce sont les mêmes interrogations que se posent les paysans sur l'invisible, sur le bien, le mal, les relations hommes-femmes. Et la violence dans l'histoire. Il suffit d'allumer la télévision aujourd'hui de voir la violence dans l'histoire.
Vous étiez attaché à dire que les gens ont souvent une image un peu noire d'Haïti.
Écoutez, c'est comme toute l'humanité, il y a de l'ombre et de la lumière, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Et très souvent, on attache à Haïti que des clichés négatifs. Et donc dans mon œuvre, toujours, j'essaie de montrer qu'Haïti n'est ni un cauchemar, ni une carte postale. Je ne vais pas angéliser les choses, en même temps, je ne vais pas diaboliser ce monde-là et le noircir. Donc je montre que l'humanité se décline d'une certaine façon en Haïti. Voilà.
Et alors, il me semble aussi que, à propos d'un autre roman, donc pas celui-ci, le précédent, vous aviez dit aussi que parfois la langue française manquait de mots pour dire le corps noir, la peau noire.
C'est pas qu'elle manquait de mots, je pense qu'il y a eu peu d'expérience d'écriture pour décrire le corps noir, sans tomber dans un exotisme. Oui. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Ben, je pense qu'on a commencé là, avec Guillaume et Nathalie. Et je pense que c'est pas seulement le lecteur qui va lire la description de ce corps noir, celui qui l'écrit aussi, qui n'a pas encore les mots, doit inventer les mots pour décrire ce corps noir, qu'il doit apprendre aussi à aimer, à accepter. C'est pas évident quand on naît dans une société post-coloniale, il y a encore tous les clichés et les critères de l'autre. Donc pour moi, c'était un exercice intéressant aussi. Et puis de dire aux gens que les gens tombent amoureux en Haïti. Donc il y a de belles parenthèses amoureuses. Voilà.
C'est où qui ouais toi oh ezili dans ta prête une poulette pour nous là m'bral faire marcher à marcher.
Fin de cette première partie consacrée à trois auteurs haïtiens. Magali Renouf présentait le roman de Serrault Aux étoiles de Jacques-Stéphane Alexis, Guillaume Singal, Les métamorphoses de l'oiseau schizophone de Franck Etienne et Yannick Lahens, Bain de lune, pour lequel elle a reçu le prix Femina. La deuxième partie sera consacrée au trait commun entre ces trois écritures et à ce qu'elles nous disent d'Haïti et de la littérature aujourd'hui. Le Dahu vous donne rendez-vous dans 15 jours sur Radio Campus Tours. Ah, après t'es boulette pour nous là, pour me faire magie à magie. Ah, t'es, après t'es boulette pour nous là, pour me faire magie à magie. Ah, après t'es boulette pour nous là, pour me faire magie à magie. Et si les dents t'as, après t'es boulette pour nous là, pour me faire magie à magie. Adieu, moi je fais magie à magie.